succès, disons, du publish or perish, et qui en effet est tout à fait fondamental. Alors, je vais laisser un peu cette partie de côté, parce que enfin, ça m'intéresse beaucoup. Il se trouve que justement, dans la séance 5, dans le 6, qu'on prépare avec Natalia et Madame Admin, en fait, je vais revenir un peu plus exactement sur ce que tu as dit sur la dimension justement socio-économique de la chose. Mais, donc, moi, la question que ça m'a posée, donc, comme je disais, hein, j'ai vraiment essayé de faire. Je connaissais vraiment le nom, tu vois, cette affaire, ou vaguement, mais comme il y avait plein de documents là sur la plateforme, j'ai cherché à lire, j'ai lu assez attentivement, j'ai écouté notamment les débats avec Dupont et Sokia. Et ce qui m'en reste, en tout cas, ce sur quoi je voudrais commencer, presque j'ai envie d'entendre tout le monde là-dessus, tout le monde les plus gradés d'entre nous ici. C'est qu'il y a quelque chose autour, je crois, de la question de la métaphore. La question, au sens très large, je vais essayer de m'expliquer. Et derrière elle, moi, je vois la question même des humanités, donc des sciences humaines et sociales au sens des humanités. Parce que moi, je reste persuadé que quand on fait des sciences humaines et sociales, c'est aussi une autre forme de savoir qu'on cherche à produire. C'est un autre rapport à l'épistémologie. Et donc là, c'est assez compliqué de voir ben, en gros, où est-ce que ça s'arrête, le canular. Où est-ce que ça s'arrête? Moi, je les ai lus aussi, les canulars, etc. J'ai lu aussi, pardon, je suis enregistré, mais pour rigoler, j'ai lu des textes à nous aussi. Je veux dire, le tic de mettre des citations en latin tous les paragraphes, j'ai reconnu des gens chez nous. Le tic d'essayer de prendre des métaphores un peu générales, pour les mettre en lien avec, disons, tu vois, un fait social ou une mobilisation sociale momentanée. J'ai retrouvé aussi des textes, on a plus de variations, je me rappelle, voilà. Et donc, finalement, jusqu'où ça nous touche, nous, enfin, à quel endroit c'est nous qui sommes moqués, mais en fait, j'ai pas quand même pas l'impression que ça va aussi loin. Voilà. Par exemple, il y a cette vidéo avec Sokal et Brigon, où ils parlent de Badiou, et en effet, ils dénoncent un truc de Badiou, où Badiou est allé chercher, je ne sais quel théorème physique, auquel par ailleurs je ne dis rien, pour expliquer que donc dans la réalité, alors, le tout du monde social, et donc les gens qui font partie d'un groupe social sont plus que les parties d'un chute du poids. Quoi. Et ils disent, ouais, il manque à peu près 15 pages entre l'énoncé physique et la conclusion sociale. Mais et en même temps, moi, alors, tiens, je ne vais pas faire aussi longtemps, mais moi j'ai une formation typiquement, moi j'ai commencé aussi, j'ai été tiraillé entre plutôt les arts et l'économie, et donc j'ai commencé moi mes travaux en art. Et j'ai commencé ma thèse en art. Et en art, je peux t'assurer que les gens, en esthétique notamment, les gens font ça tout le temps. Aller chercher dans les partitions de machin tel truc, y appliquer un élément qui soit philosophique, de philosophie générale, de théorie générale, de la relativité, machin, pour t'expliquer que bon, du coup, il y a un mi bémol et un fa dièse, et donc en réalité, ben, c'est la victoire de l'ordre social sur le. Tu vois, sans déconner. Si tu n'as pas de nom, je sais qu'on est enregistré, mais là, j'exagère. Parce que moi, ça ne me paraît pas inintéressant, néanmoins. La question moi, que je me pose en disant ça, c'est est-ce que c'est pas ça aussi les humanités? Aller chercher des métaphores, aller chercher dans les grands récits mythologiques, justement, quelque chose qui explique la réalité sociale. Tu vois, les travaux comme les travaux de Freud, par exemple, c'est ça. Alors on peut les dégommer, on peut les démonter. Il y a Ambiance. Je pensais pas qu'un jour en séminaire, il y a Onfray qui a écrit un bouquin contre Freud. Et il explique qu'en gros, bah, Freud, il faut le démonter parce que voilà, il a truqué ses. Il cherchait surtout lui-même, etc. Et donc il a truqué l'essentiel de ses données. En fait, il a fondé toute une science, ce qu'il appelle une science sur très très peu de données empiriques, etc., etc. Et donc il démonte tout Freud pour ça. Mais peu importe, c'est probablement vrai. Mais néanmoins, la question du complexe de type, on n'a pas attendu Freud pour ça. Il fait moins dur retraduire le complexe de type, d'ailleurs. Des mythes anciens, etc., et donc par des jeux de métaphores, qui va chercher chez Nietzsche, ou même s'il n'était pas clair avec ça, etc., il nous redonne. Finalement, il y a, je crois, dans les humanités, un rapport à la production de savoir qui, justement, est un rapport très métaphorique, qui va chercher bah, tous les textes, tu vois, des scolars, tu vois, ou des universitaires un peu old school, tu vois, tel qu'on peut les comprendre. l'idée du tien, c'est toujours un élément mythique ou mythologique ou quelque chose comme ça. Tu tiens ensuite par métaphore, on analyse une réalité sociale, un truc. Donc finalement, désolé, j'étais un peu lent, mais ce que je me dis, c'est finalement, quel statut on donne à la métaphore avec une affaire comme ça? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui est attaqué. Je comprends que ce soit problématique. En effet, moi, j'ai aucune. Je ne sens aucune affinité avec tout ce qui est moqué, avec tous les culturismes et les French touchismes, voilà, pour dire comme ça, tu vois, les French théorismes, disons, des racailles, machin. Mais pour autant, je crois qu'il y a quelque chose derrière de plus profond qui est-ce que c'est pas ça aussi, disons, faire produire du savoir en sciences sociales, c'est pas uniquement, tu vois, disons, des productions méthodologiques avec des méthodologies déjà expérimentées qui ont été construites pour d'autres trucs. Tu vois. Et finalement, la réponse que donnait Fabien au début, dans son introduction, en citant Bourdieu, en disant finalement qu'on ne peut être critique qu'à la condition quand même de maintenir une exigence de solidité scientifique, ça ne me paraît pas tout à fait régler le problème. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que cette exigence-là? Et je crois que la question de la métaphore, telle qu'elle est posée par un affaire comme l'affaire Sokal ou toutes les autres, eh bien, ça pose cette question-là. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est là-dessus que j'aimerais entendre de moi et puis éventuellement de
vous. Moi, je ne suis pas du tout spécial pour avoir un dernier choix là-dessus. Bon, encore une fois, ce qui complexifie les choses, c'est que il n'y a pas un discours, un argument Sokal et maintenant il y en a plein, qui se manifeste dans des supports, dans des occasions très différentes. Et comme je le disais tout à l'heure, moi je trouve que l'attaque contre l'appropriation des concepts par la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, ça, je trouve ça assez faible. Pour les raisons que j'ai indiquées, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a déformation ou transformation de ces concepts que ces appropriations deviendraient brutalement illégitimes. Ça, c'est pas du tout convaincant. Ça se passe toujours comme ça. Et là où vraiment, moi, je suis vraiment du même avis que toi, c'est que il y a des travaux passionnants en sociologie qui reposent sur des emprunts conceptuels. La théorie des champs de Bourdieu, ça vient du champ électromagnétique, enfin, on le sait bien, c'est ce qui décrit différents agents qui sont immergés dans un même champ, qui peuvent déformer localement le champ en fonction de la ressource froide, et avec des interactions qui sont entendues comme des rapports de force, ça vient des champs électromagnétiques. Probablement que les électromagnéticiens de l'histoire comme Maxwell ils reconnaîtraient pas. Alors, est-ce que pour autant c'est intéressant la théorie des champs de Bourdieu? Pas du tout.
Et puis surtout, ils s'en revendiquent pas.
Oui, ils s'en revendiquent pas, ils s'en foutent.
C'est quand même central dans cette affaire.
Il n'y a pas un argument d'autorité comme on en trouve chez Lacan ou chez Baudrillard. Ça change tout. Mais on pourrait dire aussi qu'il y a un bon papier de la lire sur l'usage des métaphores en sociologie qui est très bien, qui a été écrit dans un livre dont j'ai oublié le nom, mais qui regroupe des contributions qu'il a faites dans des supports différents. Où il parle de ça et il en cite beaucoup d'autres. Donc, la métaphore du théâtre ou du cinéma chez Goffman, tout ce qu'il dit sur les cadrages, les coulisses, les masques, le fait de jouer un personnage, etc. C'est évident que dès qu'on gratte un petit peu, moi je me rends compte grâce à mes étudiants, dès qu'on gratte un petit peu pour voir s'il y a vraiment une similitude parfaite entre le théâtre et la vision du monde social qu'a formé Goffman, ça marche très bien en fait. Voilà. Donc dans tous ces emprunts, il y a forcément des transformations, des adaptations qui impliquent un écart avec les concepts d'origine. Et je pense que c'est un argument très faible de dire que ça rend l'opération d'emprunt critiquable. Donc je trouve que cette partie-là Soka et Bricmont, et en particulier leur livre de 1998, c'est probablement la partie la moins convaincante.
C'est pour alors, ça sent de... Moi, ce bouquin, je l'ai feuilleté il y a très longtemps, en fait, mais c'est... Enfin, t'as remis le sommaire sur le slide. En fait, c'est l'essentiel de l'argumentation, non ? Ouais, c'est ça. Donc, ça ne tient finalement, en tout cas, ce bouquin-là, ne tient que sur le démontage, ne tient que sur cet argument, c'est-à-dire emprunter aux sciences dures, aux sciences de la nature, et, etc., des arguments qui sont qui font argument d'autorité pour expliciter des faits qui sont des faits sociaux. C'est l'essentiel de ce qu'ils disent là-dedans, non ?
Alors, c'est ça, et c'est en plus montrer que, en fait, Lacan, Baudrillard, etc., n'ont rien compris. Est-ce que c'est vraiment qu'un trou noir ? Est-ce que c'est vraiment qu'un espace dans le quotidien ? Et donc, c'est un pur argument d'autorité qui impressionne un public d'ignorants. Et c'est là-dessus que s'est basée toute la critique anti-intellectualiste de l'affaire Soka. Alors c'est une autre très grande faiblesse, je trouve, dans l'argumentaire de Soka et Bricmont, c'est de dire, ben, puisque il y a cette partie très convaincante, pardon, très peu convaincante dans les productions intellectuelles de ces gens-là, et ben, ça met en doute tout le reste. Et là, c'est évidemment une généralisation abusive. Bon, c'est pas parce que Lacan dit des conneries sur la géométrie non euclidienne que forcément toute la psychanalyse de Lacan est à mettre à la poubelle. C'est aller trop vite en besoin. Donc ça, non, ça tient pas tellement la route, je trouve. Alors, quant à savoir, est-ce que nous sommes moqués aussi ? C'est un peu ce que tu as l'air de dire. C'est-à-dire, est-ce que nous avons, nous, en tant que chercheurs en sciences sociales, des pratiques discursives, démonstratives, d'écriture, qui ne pourraient pas prêter le flanc à la même critique ? Moi, j'ai tendance à penser que non, mais peut-être que je me fais des illusions. Je n'ai pas l'impression que nous, quand je dis nous, c'est les gens qui sont ici. Ceux que nous aimons lire, je ne suis pas sûr qu'il y ait des exagérations aussi extrêmes que celles qu'on trouve chez Latour ou chez Calon. Tu vois, quand Calon écrit ce papier, ça aussi c'est un des textes qui m'ont marqué, qui venait d'être publié quand je suis arrivé au Centre social d'innovation. Quand Calon écrit cet article, il me dit voilà. Les marins-pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc, les scientifiques qui font de la zoologie marine et les coquilles Saint-Jacques.
Pecten Maximus.
Ouais, Pecten Maximus, de mer. En fait, tout ça, ce sont des acteurs de même nature. Et donc, on va décrire et analyser leur comportement avec le même appareillage conceptuel issu des sciences politiques. Donc voilà, ils font des tentatives d'intéressement, ils veulent se constituer comme point de passage obligé, etc. Là, tu te dis que, il y a un saut conceptuel, il y a un écart entre les notions utilisées et T1, qui est faramineux, et je trouve qu'aucun d'entre nous, aucun des chercheurs en sciences sociales que nous aimons lire et que nous utilisons, s'autorise des écarts aussi grands. Il me semble. Donc, non, je me sens pas. Enfin, j'ai pas l'impression que nous, il faudrait s'entendre sur qui est le nous, mais j'ai pas l'impression que les collectifs de chercheurs en sciences sociales dans lesquels nous sommes insérés sont susceptibles, enfin, d'être critiqués de la même façon.
Moi, je veux bien, mais vraiment très rapidement, répondre à ton interpellation sur la question des métaphores. Moi, je pense qu'on... Les métaphores, on en utilise, bien évidemment, mais je trouve qu'il y a une vraie différence entre un usage de la métaphore pour expliciter, pour illustrer, voilà, et l'usage métaphorique de ce qui est déjà un concept. Or, ce que font, ce que dénoncent en fait, j'ai l'impression, Socal et Bricmont dans ce bouquin-là, là, Imposture intellectuelle, d'après ce que tu lui en dis et puis des très vagues souvenirs que j'en ai, c'est quand même ça, quoi. C'est l'usage métaphorique, en fait, la vérité, l'usage non sérieux, c'est-à-dire qui ne correspond pas au sens du concept initial, de ressources qui font autorité en plus, par ailleurs, dans une autre discipline, etc. Donc là, c'est un usage métaphorique d'une forme de catégorie particulière qui est le concept. Moi, il me semble qu'il y a enfin, chez eux, il y a ce truc-là. Et puis, moi, il me semble, mais peut-être que je me trompe, mais si on prend le titre de l'article l'article de Socal où il dit oui, regardez, je viens de faire un truc assez drôle, etc., dans Lingua Franca. Enfin, dans le titre, il y a quand même Cultural Studies. Donc, pour répondre aussi, est-ce que le nous, ce serait pas les chercheurs en SHS d'une manière générale qui seraient visés? Moi, il me semble que non, dans la mesure où les choses sont quand même spécifiques, enfin, sont précisées dans le titre de cet article-là. Il ne publie pas n'importe quoi dans n'importe quelle revue. Donc, Social Text, à l'époque où il publie. Et un truc qu'on n'a pas dit aussi, je me permets cette petite digression qui me semble importante, c'est que Socal publie le papier sous son nom, contrairement à tous les autres qui publient sous pseudo. Et Socal, à l'époque, me semble-t-il, est une espèce de ponte quand même déjà. Enfin, il a quand même une. Donc, et bien évidemment, en publiant une connerie sous son nom, bah, il joue sur son nom et sur la notoriété de son nom, sur son capital symbolique, pour faire passer la Valda quand même, me semble-t-il. Donc il y a un petit jeu là stratégique quand même qui est spécifique à ce canular-là. Et puis, Cultural Studies, quand même, quand tu as montré le sommaire, tous les auteurs, pas tous, hein, mais quand même une grande partie, Lacan, Kristeva, Baudrillard, Deleuze, Guattari, Virilio, on l'a dit, Christophe, c'est la French Theory. Et à l'époque, la French Theory, c'est quand même le summum de la hype dans les cultural studies. Donc c'est quand même une attaque d'un domaine de pratique scientifique, me semblait-il, assez ciblée. Assez ciblée, et c'est en ça que quand on dit Socal au carré, c'est plus qu'au carré, me semble-t-il. C'est pour ça que le canular industriel des trois personnes qu'on a évoquées en introduction me semble relever quand même de la même nature, dans la mesure où la cible est quand même à peu près la même 20 ans plus tard, mais c'est quand même ça. Et notamment, il me semble que l'un des trucs qui est pointé, c'est la question des erreurs interprétatives fécondes, quoi. Qui est quand même un truc qui est dans le champ des cultural studies, qui est hyper vaste, et il ne s'agit pas de généraliser et dire toutes les cultural studies ou tous les travaux s'inscrivant dans le champ des cultural studies, c'est un salmigondi, c'est pas ça le propos. Mais pour certains, ils théorisent quand même le fait qu'on puisse raconter des conneries, du baratin au sens de Frankfurt, du baratin à partir de concepts, et donc de ne pas faire le travail de discussion sérieux sur les concepts. Il y a quand même une catégorie particulière, mais que finalement, cette erreur donne des choses quand même intéressantes. Alors, ben, pourquoi pas? Mais quand c'est systématique, c'est quand même un peu gros, quoi. Voilà, quoi. Et je crois que c'est notamment une partie de cette chose-là qui est pointée par ces trois personnes.
Il y a plein de choses à dire. En fait. Une micro-parenthèse. En fait, moi, ce que j'ai découvert, ou redécouvert, c'est à quel point ce truc qui a l'air simple, voilà, un physicien arrive à faire publie un article d'écho dans la Révolution sociale, il le révèle, et après il fait un bouquin avec un collègue pour généraliser un peu le propos. Tout ça est très, 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 très complexe. Alors, ce qui est une première chose étonnante, c'est la variété de la cible. Ça, j'ai déjà dit. Donc, parfois, il dit cultural studies. Parfois, il dit academic left. Il y a d'autres moments où il dit postmodernisme. Il n'utilise jamais French theory, mais comme par hasard, il y a des moments où tous les auteurs attaqués sont des Français. Et pas mal de gens, notamment aux États-Unis, qui le reprennent comme bon argument, ils disent eux French theory. Donc c'est très très compliqué en fait de savoir quel est l'objet bibliographique ou intellectuel qui est critiqué. Alors l'autre chose, c'est que un truc que j'ai appris aussi dans les discussions avec eux, c'est qu'au départ, il y avait Derrida dans le tas. Donc Derrida est critiqué dans l'article Social Text. Je crois qu'il est mentionné très rapidement dans l'article Lingua Franca. Et en fait, il y a des universitaires américains qui sont allés voir Sokal en disant « Mais non, mais ce que vous dites sur Derrida, c'est pas la route. On va vous montrer, on va en discuter avec vous. » Et Sokal a été convaincu. Il a dit « Oui, c'est vrai, vous avez raison. Derrida, c'est du sérieux. » Et c'est pour ça que, alors que dans la version d'origine, il devait y avoir un chapitre sur Derrida en même temps que Lacan et compagnie, finalement, ça a disparu. Donc voilà, tout ça c'est très compliqué, très changeant. Et enfin, moi-même, mon attitude par rapport à ça, parce que bon, pour une fois, je vais me faire l'avocat du diable, puisque je trouve qu'on est beaucoup plus d'accord que prévu. Il ne faut quand même pas nier que l'acteur réseau a construit des concepts dont on a constaté a posteriori. Ils avaient une excellente adéquation au terrain. Le concept de réseau tel que l'a construit la Tour des Canons, il y a quand même bien des enquêtes où il marche beaucoup mieux que celui de Champ, par exemple. Il y a des réalités où il n'y a pas d'espaces sociaux homogènes qui pourraient être conceptualisés comme étant des champs ou des professions. Des segments au sens interactionniste ou des espaces sociaux et où vraiment le concept qui marche le mieux c'est celui du réseau. Et ça c'est quelque chose qu'il faut mettre au crédit de la Tour des Canons.
Mais non, parce que la manière dont tu présentes les choses me semble là où je deviens plus d'accord pour le coup.
Mais c'est très bien.
T'as l'air de dire que finalement les modèles théoriques et les systèmes conceptuels, c'est simplement une adéquation d'un formalisme conceptuel à une réalité concrète.
Non, c'est pas que ça.
Et ça convient mieux à, tu vois. Mais surtout, c'est que tu montes pas les mêmes choses. Alors, effectivement, il y a des espaces sociaux que tu peux rendre compte sous le régime du réseau. Tu ne peux pas rendre compte sous le régime du champ, parce qu'ils ne sont pas des champs tels que Bourdieu les décrit. Ça, on est bien d'accord. Mais surtout, on pourrait imaginer, on peut imaginer décrire l'université à la fois comme un champ, ça marche très bien, et puis employer la théorie de l'acteur réseau pour décrire l'université, ce qui s'y passe, ça marcherait bien aussi. Mais c'est surtout que tu ne montres pas les mêmes choses. C'est-à-dire que tu es dans l'incapacité la plus totale de montrer avec la théorie de l'acteur réseau ce que le système conceptuel lié au champ est en capacité de montrer. C'est surtout ça. Non ?
Ce que je voulais dire, c'est que puisqu'on est plus d'accord que ce que j'imaginais au départ, complétons dans la nuance, la Tour, Calon et leurs proches ne sont pas que des théoriciens collés au plafond, comme Sokal et Bricmont les accusent parfois. Vraiment, il y a de temps en temps des textes. Ça donne envie d'aller, tellement c'est n'importe quoi. D'ailleurs, il y a des gros, ça les a beaucoup desservis. Ils ont perdu des alliés très importants et des articles qui ont été publiés contre la tour, qui s'appelait même comme ça. Donc ça n'a pas été simple pour eux à certains moments. Mais ils n'ont pas fait que ça. Il y a des terrains qui ont pu être conceptualisés à l'aide de l'acteur réseau et où ça a été incontestablement un résultat positif de la recherche. Et il y a des choses qu'on s'est mis à pouvoir constater et expliquer beaucoup mieux qu'auparavant grâce à ces nouveaux appareils conceptuels. Et puis ce qu'il faut ajouter aussi, et ça, moi je me souviens, j'ai lu notamment des articles de Terry Sheen, où on sent que ça lui faisait mal à le reconnaître, mais il était bien obligé de le reconnaître. Et ce qu'il racontait aussi Terry Sheen, c'est que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est en plus de ça, beaucoup plus structuré par des dispositifs techniques qui font exister des réseaux. Les réseaux sociaux, qui d'ailleurs s'appellent aussi comme ça, les réseaux sociaux en ligne et tout. Donc c'est là aussi, il faut reconnaître que les réseaux hétérogènes au sens de la tour et Calon, ils sont quand même parfois beaucoup plus efficaces que les champs bourdieusiens où tous les acteurs sont homogènes, simplement ils ont des niveaux de ressources différents. C'est vrai, il y a quand même des résultats empiriques de temps en temps où ce répertoire intellectuel rend énormément de service. Et le truc que je voudrais ajouter pour que je me fais l'avocat du diable, c'est que donc, dans les années 80, moi, il y a une littérature que j'ai découverte quand j'étais au CSI, parce que ces gens-là étaient vraiment des militants. Et ce qu'ils voulaient, c'est ne pas être tout seuls en France dans leur lutte contre l'épistémologie franco-française, Bouvresse, Gilles Gaston-Branger, etc. Ils sont créés une parenté avec donc, la SSK, la sociologie de la connaissance scientifique, telle qu'elle commençait à se construire à Bath et à Édimbourg, et puis après aux États-Unis, je crois que c'est principalement en Californie. C'est vrai que bon, moi j'ai lu, grâce à eux, des traductions françaises, donc plus facilement digestes pour moi à cette époque-là, de certains travaux, et ça m'a complètement bouleversé. La vision que j'avais de la science était plus la même après. Donc, un des grands chefs-d'œuvre, il faut bien l'appeler comme ça, de ces recherches, c'est ce qu'a raconté Paul Foreman sur l'émergence de la physique quantique. Qu'est-ce qui a fait que la physique quantique s'est développée très très tôt en Allemagne à l'époque de la République de Weimar? Ce que montre Foreman, c'est que c'est l'ambiance irrationaliste, néo-romantique de l'Allemagne de Weimar qui a été un facteur décisif dans le fait que les physiciens là-bas, beaucoup plus tôt que dans les autres pays occidentaux, ont basculé de la physique dite classique à la physique quantique en disant oui, il y a une incertitude fondamentale dans les observations. Un électron, c'est de temps en temps une onde et de temps en temps une particule. Et moi, je me souviens que j'ai commencé la lecture de cet article en étant persuadé qu'il était faux. C'est-à-dire que c'était impossible que ça soit passé comme ça. Ma conviction, c'était si Heisenberg, Planck, tous ces gens-là en physique théorique ont basculé dans la physique quantique, c'est parce qu'il y avait des résultats, quoi. Et que les démonstrations théoriques et les mesures expérimentales les amenaient à faire ça. Et Foreman fait un papier colossal où il les prend un par un, où il les suit année par année, presque mois par mois, et il montre, et c'est complètement irréfutable, tellement c'est précis, que non, ils ont changé avant qu'il y ait des résultats scientifiques. Bon, c'est vraiment l'environnement culturel dans lequel ils ont été baignés qui les a fait basculer. Voilà, donc c'est.
Je suis désolé, ça me donne envie de faire un insert, mais pour reprendre ce que disait Fabien à l'instant sur ce que tu disais sur la théorie de l'acteur réseau, on pourrait dire exactement la même chose en fait. C'est-à-dire que tu tends à reprendre finalement un argument comparable à celui que tu pensais avoir face à cet article-là, à savoir qu'il y aurait des résultats qui laissent entendre que ça, que c'est ce qui fait que ça marche, quoi, que c'est ce qui fait qu'on le fait. Or, j'ai envie de dire presque que l'auto-socio-analyse que tu nous as produite tend à contrebalancer ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un ensemble d'imaginaires, de parenté, je ne sais pas, qu'elle soit idéologique, ou, même si elle n'était pas forcément conscientisée ou pensée comme cela, qui a fait en sorte qu'un certain nombre de théories comme celle-là ont pu émerger, et que, si tu veux, dans cette atmosphère-là, ça s'est de toute manière trouvé facile à appliquer à des réalités qui étaient des réalités finalement issues du même, je ne sais pas comment dire, de la même époque, de la même époque, qu'elle soit théorique, politique, etc.
Pour le coup, c'est une démonstration très matérialiste.
Est-ce que tu parles de la parenté avec, d'une part, cet article sur la physique de l'époque de Weimar et la sociologie d'innovation qui, comme par hasard, naît en même temps que le néolibéralisme? Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle, enfin, dont j'aimerais qu'on parle. C'est que moi, ma conviction, hein, c'est qu'on a affaire là à un des lieux de naissance de ce capitalisme en réseau, dérégulé, en faveur de l'innovation, expliquant qu'il ne faut pas que la recherche soit autonome, que c'est... qu'on ne comprend rien quand on dit ça. Enfin, voilà. Donc, moi, je pense qu'à plein d'un titre, le monde dans lequel nous vivons là, aujourd'hui, avec une idéologie qui est dominante, qui n'est pas que de l'idéologie, c'est aussi des dispositifs techniques, on ne peut pas faire autrement que de s'en servir. Bien, ce monde s'est construit dans un tas d'endroits à peu près bien identifiés, et celui-là en fut un.
Les sciences d'attention de la communication, mais un deuxième.
Très certainement.
Ça, c'est une bonne question. Parce que dit Matelard a fait des analyses assez probantes, là, tu serais d'en penser les médias ou l'usage des médias en tant que crise, dans les quelques
phrases pour la discipline. Oui, bah non, moi ça me faisait penser à ça, du coup, à l'utopie de la communication après la Seconde Guerre mondiale, et qui pour moi va de pair avec l'acteur par réseau. Enfin, en 10 ans, on a appris ça comme ça, quoi, l'acteur par réseau et tout ça. Et c'est vachement intéressant. Du coup, déjà, c'est intéressant parce que votre socio-analyse, votre auto-socio-analyse, elle permet du coup d'avoir vraiment un point de vue radical, dans le sens de radicalité que j'aime bien, qui est celui vraiment de retour à la racine d'un problème ou quelque chose de problématique, quoi. Et c'est intéressant parce que du coup, moi, ça me fait penser à, ok, il attaque les cultures où je te dis, il y a des trucs... dans les cultures où je te dis ce qui peut être critiquable. Moi, personnellement, j'ai appris des trucs vraiment très bien par le biais des cultures où je te dis, et d'autres trucs que je comprends pas, effectivement, parce que des fois, on dit des trucs abscons qui sont... J'en sais rien, pour moi, j'en sais rien. J'ai le temps de voir. Et du coup, voilà, il y a un truc qui est derrière et qui est intéressant et que nous, on subit de plein fouet parce que, du coup, on se le prend en pleine voie, on est rentré à l'université avec l'espèce de mythe de l'université autonome, justement. Et l'université qui nous permet de complètement développer un esprit critique, de complètement comprendre le monde qui nous entoure, ou du moins d'essayer d'avoir la possibilité d'aller vers différents domaines, de ne pas forcément penser les choses en école ou en conflit, et de vraiment, voilà, de ne pas penser les choses en école ou en conflit. Je veux dire, il y a ce mythe comme ça quand on rentre dans l'université, complètement détruit ensuite avec les rapports de pouvoir qui sont assez forts, etc. Et il y a ce truc que j'ai plus ressenti à Paris qu'à Lille, et qui est vraiment, du coup, aussi, je ne sais pas si c'est lié à un contexte particulier, ou si c'est lié, du coup, à Paris, je ne sais pas, ou si c'est lié au fait, du coup, qu'on m'ait averti sur la thèse aussi, peut-être, je ne sais pas, on en apprend tous les jours, quoi. Mais le truc de... Là, ce que vous avez dit au début, la réussite personnelle et la carrière par la carrière, et du coup la reconnaissance, et du coup l'ego, et du coup le truc de dire tout le temps, je vais faire un truc incroyable, je vais faire un truc ultra original, ça va éclater la tête de tout le monde, ça va être genre super et tout, Et en fait, c'est que de l'apparence et c'est que des moyens de gratter des positions de pouvoir à des endroits, des trucs, des machins. Et du coup, je trouve que l'utopie de la communication, elle est très forte là-dedans, parce que l'utopie de la communication, c'est on va pouvoir s'en sortir par du coup le dialogue, etc., mais surtout le savoir-être, genre, des trucs, voilà, et le fait de savoir se distinguer par rapport à quelqu'un d'autre, et du coup l'ultra-individualisme que ça implique derrière, c'est moi qui ai révolutionné le monde de la recherche, parce que je pensais à ça aussi. Est-ce qu'on peut dire que si on ne prend pas une posture progressiste, parce qu'il y a cette espèce d'imaginaire autour de la gauche où il faut une posture progressiste, etc., est-ce que si on ne prend pas une posture progressiste, on est automatiquement conservateur, du coup? Parce que non, mais dans le progrès, il y a ça, il y a l'innovation, il y a le changement, et il y a le truc de mon individualité va être l'apport du changement. Et il y a un truc comme ça dans la culture studies que je trouve qui se ressent, parce que c'est une science nouvelle. Et du coup, c'est plein de gens à l'intérieur qui veulent provoquer le changement à tout prix, en fait. Enfin, je sais pas. Et dans l'étude de la communication, il y a ça aussi. Et du coup, c'était la question que je me posais vraiment. C'est, du coup, cette espèce d'individualisme latent qui est assez, assez lourd aussi, enfin, qui est... Enfin, franchement, ouais, voilà, quoi, les trucs de... Voilà, c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Moi, je vois ça comme une illusion du changement et d'être la personne qui va apporter le changement. Et cette question que je me pose, c'est quand on est, parce que vous dites, c'est beaucoup des gens à gauche, etc., quand on est progressiste, enfin, quand on est, donc du coup, si on est à gauche, on est progressiste, mais est-ce que vraiment on a le droit aussi de ne pas être progressif sans être conservateur, quoi? Je sais pas, peut-être ça ne voulait rien dire.
Si.
Et je sais pas, c'est ça que
je voulais dire. Je suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est...
Je sais pas.
Là, je pense qu'on aurait tous beaucoup de choses à répondre, mais je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui où ces catégories sont beaucoup plus compliquées qu'auparavant à utiliser, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de façons d'être progressiste, hein, il y a plein de façons d'être réactionnaire, il y a plein de façons d'être de gauche, il y a plein de façons d'être de droite. Et ce qui est terrible, en fait, d'une certaine manière, c'est d'avoir pu constater qu'à certains moments, la tour a pu représenter le comble de la nouveauté, hein, la pointe avancée de ce qui était le plus innovant, le plus radical, dans les sciences sociales et parfois même en politique aussi. Alors que par certains côtés, il y a de quoi être sceptique. Moi, je trouve que tout ça, ça pointe vers un tas de choses qui nous préoccupent, qui ont à voir avec la marchandisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, et les étranges contributions à cette marchandisation de travaux intellectuels, scientifiques, qu'on a longtemps considérés comme étant les plus progressistes qui soient, les plus critiques qui soient, les plus à gauche qui soient. Et ça pointe aussi vers une autre question qu'on n'a pas beaucoup encore abordée, mais je ne sais pas si on aura le temps. C'est ce qui se passe en ce moment dans les mouvements sociaux. C'est-à-dire, il faut être clair, peut-être que je l'ai dit de façon un peu trop brutale, mais il y a quand même une parenté entre le positionnement idéologique de Sokal, dit à certains moments, il y en a marre avec les minorités. Les gender studies, les post-gender studies, les black studies, tout ça c'est bien joli. Hein. Donc il sait qu'il va s'en prendre plein la tête s'il va trop loin, donc il n'arrête pas de dire je suis de la gauche, je suis féministe, je suis allé enseigner au Nicaragua, j'ai été des sandinistes, etc. Mais dis donc, mais si vous continuez, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de détruire les choses auxquelles vous êtes attaché. Donc, moi, ce que je trouve très, très perturbant, c'est de voir que, par exemple, au moment des élections aux États-Unis, parmi les électorats que Hillary Clinton essayait de mobiliser, il y avait les femmes. femmes, il y avait des chicanos, il y avait des noirs. Hein. Et l'idée, c'était de dire que, bah, de toute façon, les milieux populaires blancs, on les a perdus, ils votent pour Trump. Et à ce moment-là, Sanders a eu énormément de mal à essayer de défendre une position différente. Je trouve qu'il y a une parenté troublante avec ce qui se passe avec Corbyn au Royaume-Uni, et une parenté plus que troublante avec ce qui s'est passé en France, avec le déclin du Parti Socialiste. Un événement hautement révélateur, je pense que tout le monde entend parler ça, c'est la fameuse note de Perrin-Noir, hein, disant allez, la social-démocratie n'en a plus rien à cirer des milieux populaires, ces gens-là, de toute façon, on les a perdus, ils vont voter pour le Front National, donc maintenant, appuyons-nous sur les minorités. Et là aussi, c'est un sujet extrêmement touchy. Les gilets jaunes, ils sont sociologiquement très marqués par certains côtés et pas du tout par d'autres côtés. Donc ça pose question, hein, de voir que l'insurrection que certains appellent de leur vœu depuis un petit moment, d'où elle vient ? De la France profonde, des agriculteurs, pas des endroits dont on imaginait que je ne sais pas s'il y a une réponse à vos questions, mais l'affaire Sokal et l'affaire Sokal au carré nous parlent de ça aussi.
Je pense qu'un des mouvements sociaux aussi par rapport auquel ça a commencé à se voir très fort, c'est pas les Gilets jaunes, c'est 2016. À un moment où vous étiez déjà à l'université, déjà ici, contre la loi travail. C'est-à-dire qu'on voit bien comment se sont positionnés par rapport à ce mouvement-là un certain nombre de nos collègues qui font partie, effectivement, qui s'inscrivent dans les champs, qui sont par ailleurs dénoncés au travers des choses dont on vient de parler aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est quelque chose que vous avez à réfléchir, assez clairement. Mais on y réfléchira plus tard.
C'est pour ça que je dis, que quand on est un individu qui a été socialisé de la façon qui a été la mienne, je pense que c'est pas que la mienne, je pense qu'il y a à la fois des différences et des points communs avec vous tous ici, c'est on est dans des situations crée des tensions intra-individuelles, comme disait la Tour. Tout à coup, ça part dans tous les sens. Quoi.
Oui, mais
vous avez l'air vraiment.
Sauf qu'il y a une solution qui est choisie. Tu vois, c'est que ça part dans tous les sens, et pourtant tu as fait ça.
Parce que si, oui, mais c'est pas facile.
Si, non, d'accord, mais si, sinon c'est presque du relativisme complet, tu vois. Alors du coup, voilà, on est tous tendus, il y a des tensions partout. C'est que je vois pas trop où tu veux en venir avec ce...
Là où je veux en venir, moi j'ai peut-être un peu plus ça en question, tant pis, c'est pas grave. C'est que on a connu il y a quelques années une situation qui rétrospectivement nous apparaît comme étant assez confortable, où, on pourrait dire de façon très caricaturale, tous les dominés étaient ensemble. Et donc on défendait tous les dominés. Voilà. Et là, c'est devenu beaucoup plus compliqué. C'est ça que je veux dire. Et je suis désolé, l'affaire Sokal et l'affaire Sokal au carré, nous parlent de ça. Quand Sokal écrit en 1996, pour rire, le discours de la communauté scientifique, etc., n'a de peu revendiqué aucun statut épistémologique supérieur vis-à-vis des récits contre-hégémoniques issus de communautés dissidentes ou marginalisées. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous comprenez? Ouais, c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est, je veux dire, on a été socialisé, à la recherche. Alors, on a le droit, enfin, évidemment, on considère que les physiciens, les mathématiciens, les chimistes, ils vont un peu loin quand ils disent qu'eux, ils sont tout au sommet de la hiérarchie intellectuelle, qu'eux produisent de l'objectivité pure et dure, et que nous, on est en dessous. Ça, on peut contester, mais malgré tout, compte tenu de notre socialisation intellectuelle et professionnelle, on a des points communs avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'on estime produire des descriptions dignes de foi du monde tel qu'il est. Moi, je suis convaincu que quand j'écris un article sur l'histoire de ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, à la troisième, dans les troisièmes publics, je dis quelque chose de vrai sur ce qui s'est passé à cette époque-là. S'il faut que je renonce à ça, c'est terminé, je vais arrêter de faire de la recherche. Donc j'ai, du fait de ma socialisation, des points communs avec Sokal, c'est absolument incontestable. Et donc, si on commence, enfin, il y a un moment donné où je ne peux pas accepter que mes travaux de recherche sont à mettre exactement sur le même plan que je sais pas, les discours idéologiques comme ceux qui ont été produits à la même époque par ce qui restait de royalistes, hein, qui produisaient des discours antisémites. Vous voyez, ça c'est pas possible. Donc on est dans des situations très délicate, où on est beaucoup plus qu'auparavant mis en tension.
Tu avais une question, là?
Oui, je ne sais pas si je vais être capable de mettre en concret les idées, mais c'était plus sur l'approche en fait, de science-mesure. Peut-être qu'il y a une... Ça vient d'un clivage de l'approche de science dure et science sociale, disons, de l'affaire Sokal. Et je ne sais pas si c'est une réalité, mais de loin, ce qu'on peut voir dans l'espace public, on a plus de vulgarisation de science dure dans les, je ne sais pas, peut-être dans nos petites, articles, des trucs comme ça, ou des magazines, des choses géographiques, ou des trucs comme ça, des magazines un peu genre sur l'informatique ou d'autres. Donc, vous, quand vous achetez, vous lisez, donc vous comprenez. Donc, il y a là vraiment une vraie complexité là-dessus. Est-ce que ça peut être en fait une attaque contre l'incapacité, en fait, la science sociale qui est plus peut-être incapacité par rapport à la science dure à un certain niveau. Je ne dis pas qu'il y a une manque de mobilisation dans les champs publics et ils veulent peut-être casser cette. Ils veulent briser peut-être cette incapacitation. Et aussi, en fait, deuxième partie, bon, c'est par exemple dans Sciences dures, il y a une chaîne, c'est-à-dire qu'il y a une recherche, la recherche en fait qui est faite, plus ou moins, il y a une application. Il y a un centre de recherche qui fait la recherche, une application peut-être par des entreprises, des ingénieurs, on peut dire des DOL. Et après, en fait, il y a des utilisateurs à travers des commerçants et tout. Donc, il y a une chaîne comme ça qui arrive, la recherche vers le peuple, vers l'espace public. Est-ce qu'il y a une chaîne comme ça, en fait, dans les sciences sociales, pour vous? Où c'est plus et un peu plus déconnecté, et donc du coup c'est cette déconnexion qui peut-être dérange ce cas. Je sais pas si j'étais un peu clair.
Alors, je sais pas si j'ai tout à fait compris ce que vous vouliez dire, mais ce que vous avez l'air de dire, c'est que il y a des productions qui sont très ésotériques. très difficile à saisir pour le grand public, mais qui pour autant bénéficie de certaines institutions, de certains supports éditoriaux qui prennent en charge les traductions, les transformations, quelque chose qui est beaucoup plus lisible et qui permettent au grand public intéressé de se l'approprier, de voir en gros qu'est-ce que c'est que l'informatique quantique, qu'est-ce que c'est en ce moment que l'intelligence artificielle, dont on nous dit que ça va bouleverser la médecine, peut-être faire disparaître certains emplois massivement, d'une part, et d'autre part, il y a aussi des professions, des organismes qui se chargent de tirer de ces travaux scientifiques des dispositifs techniques qui trouvent une utilité dans la vie courante. Et ce que je comprends, c'est que vous nous dites que ça, ça n'existe pas vraiment ou beaucoup moins dans les sciences sociales, et c'est quelque chose qui...
C'est plus implicite, en tout cas c'est plus moins visible.
Moi je crois que c'est... Je crois que vous avez raison quand vous dites que c'est moins visible, et je crois que vous avez tort si jamais vous dites que ça existe très peu. Parce qu'en fait... Bon, d'abord, c'est relais des deux types. Hein. C'est produire des discours un peu plus faciles d'accès pour le grand public. Voilà. Il y en a plein, en fait. Hein. Il y a plein de magazines. Je ne sais pas, en France, il y a le magazine Sciences Humaines qui vit très bien. Et puis, moi, j'ai des enfants qui sont de la 5e terminale. Et ce qui me stupéfie en voyant les manuels scolaires de sciences économiques et sociales, c'est-à-dire des travaux que je découvrais dans les années 90 sur le marché du travail, Kranovetter, le rôle des liens faibles. Donc à l'époque, on était en recherche très nouvelle. C'est dans les bouquins de terminale. Hein. Donc voilà, les mathématiques que font en ce moment les enfants qui sont, les adolescents qui sont en terminale, il y a de la théorie des graphes, il y a de l'algorithmique. Pourquoi ? Parce que c'est des mathématiques très récentes qui ont évolué, qui sont devenues très très utiles pour comprendre les structures en réseau, pour faire des algorithmes, pour préparer les enfants à devenir, s'ils le souhaitent, des informaticiens. Donc il ne faut surtout pas s'imaginer que les programmes scolaires sont un peu assoupis et ne découvrent tout ça que tardivement. Hein, ils sont très régulièrement mis à jour, ça m'a beaucoup. Donc il y a des relais qui sont des équivalents de ce qu'on pourrait appeler la vulgarisation ou la médiation scientifique. Et autre chose, c'est que dévoiler entre, un, ce que construisent les sciences sociales, et deux, ce qu'on peut en faire dans certaines institutions ou dans certaines entreprises, là aussi, ils sont très étroits. C'est-à-dire, là je reviens à la tour éclairante, c'est-à-dire, dès les années 80, quand j'étais là-bas, la tour Galon, comment il s'appelle, Mustard, quelqu'un qui est parti, qui s'appelle Laredo, mais ils ont dépensé une énergie phénoménale pour que leur vision de ce que c'était que la recherche soit implantée dans le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur en France, et à la Commission européenne pour que l'évaluation des chercheurs et l'évaluation des programmes scientifiques se fasse en utilisant leurs outils et non pas ceux qui avaient une vague parentale avec Bourdieu. Donc l'idée qu'on allait évaluer un chercheur en fonction des liens, hein, en fonction de son réseau au sens de la Tour Calon, c'est arrivé très très vite en France au ministère. 10 ans après, c'était fait. Il y avait des articles publiés dans le magazine La Recherche qui montraient, qui étaient des étapes de la recherche française, hein, telle que vous pouvez la comparer à celle qu'il y avait dans les autres pays. On voyait que c'était des outils, hein, de l'acteur réseau qui étaient utilisés pour les comparer. Donc ça veut dire qu'on n'utilisait plus des outils de type champ, agent, quantité des ressources détenues par chaque agent, mais plutôt réseau, quantité de liens, position dans des trous structuraux, etc. Donc, la recherche en sciences sociales, même si on en sait très peu, est très vite utilisée, notamment par les institutions, on pourrait dire autant par les entreprises. Et moi, en fait, un truc qui m'a frappé plus tard, c'est que quand on regarde de près, beaucoup de grands sociologues français qui sont issus des écoles d'ingénieurs, qui viennent de l'école polytechnique et qui ont fait polytechnique, puis après l'école des mines ou l'école des ponts, comme l'école d'application. Pourquoi ? Parce que la technocratie, pour employer un gros mot, c'est une très très grande consommatrice de travaux sociologiques. Et elle en est une grande consommatrice parce qu'elle les injecte en permanence dans les méthodes de management, le fonctionnement quotidien des administrations publiques et des entreprises privées. Vous voyez, de ce point de vue-là, je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que les sciences sociales se propagent, pénètrent et dans le corps social et dans les organisations bien aussi vite, bien aussi intimement que les objets techniques qui sortent, vous voyez, de l'informatique, de la recherche médicale, etc.
Est-ce que tu dirais la même chose de la recherche en sciences sociales et critiques ? Parce que, alors, moi je pense qu'il y a un enjeu, si tu as parlé un peu, tu vois, des sous-bassins idéologiques de certaines recherches sociologiques, etc. Moi je sais, alors je ne sais pas à quoi c'est dû, si tu veux, mais à l'époque où je travaillais sur la publicité, les publicités, etc., je peux te faire aussi, si tu veux, tu vas voir un publicitaire qui va te dire de rire. Sans déconner, c'est-à-dire l'attaque qu'ils font, là, tu comprends pourquoi ils l'attendent, quand il va sortir, si tu as des objets. Alors évidemment, ça n'a plus de sens au sens critique du terme, si tant est qu'on puisse dire que ça a eu un jour ce sens.
Juste une petite phrase, moi en fait je voyais plus dans le côté contestataire, c'est-à-dire que moi je voyais les militants de gauche, entre guillemets, comme les ingénieurs, l'applicateur de sciences sociales. C'était plus dans ce sens-là que je voulais poser la question, mais c'était pas très clair.
Mais c'est pas sans lien avec.
Non, en gros, c'est ça.
Mais c'est en gros, c'est ça.
C'est ça, alors, sauf que du coup, la différence, ce serait qu'il y a des milieux, je pense, qui n'ont pas vraiment d'être, donc, qui se targuent, mais parce que c'est une image et un discours qui se donne pour se vendre au même, qui se targuent d'appliquer des trucs plus ou moins branchouilles de la théorie. Et en effet, il y a peut-être aussi. Certains autres milieux où ce sont des acteurs, alors du mouvement social, des acteurs contestataires, qui participent de la diffusion au sein d'espaces sociaux plus élargis des découvertes des sciences sociales critiques.
Bah. Je peux me permettre, avant que tu répondes, juste d'ajouter encore un truc qui vient un peu grossir, épaissir le dossier, mais qui va dans ce sens-là. Quand on regarde les textes officiels en France de ce qui définit l'université, les fonctions des enseignants-chercheurs, il y a deux volets, hein, comme chacun sait, pardon. Il y a deux volets, il y a la production du savoir, qui est le premier volet, et puis la diffusion du savoir, qui est le deuxième volet, et la spécificité de l'université, c'est précisément, et je le répète, parce qu'il y a quelques étudiants ici, et c'est quand même, c'est l'articulation entre la production et la diffusion du savoir. Le propre de l'université, c'est quand même diffuser un savoir qui est censé quand même grandement produire, ce que certains collègues semblent oublier, en quelque sorte. Et quand on regarde les statuts, par exemple, pas tant des enseignants-chercheurs que des universités et certaines universités étrangères, je pense par exemple à l'UQAM, il y a une troisième fonction qui est le service à la collectivité. Et ça ne me semble pas être dément d'inscrire cette chose-là dans les principales missions des enseignants-chercheurs, dans la mesure, et c'est vrai pour les sciences humaines et sociales, qu'ils sont potentiellement évaluables, mais ça c'est pas très intéressant, mais ils doivent effectivement, le savoir produit au sein de l'université et diffusé au sein de l'université doit aussi trouver éventuellement des, non pas sous les fourches codines de l'utilitarisme, mais doivent effectivement servir à la collectivité. Et là, par exemple, Paris 8, on est quand même inséré sur un territoire tout à fait spécifique, Voilà. Et en gros, les, y a un certain nombre d'acteurs de la Seine-Saint-Denis et du, je dirais, du bassin proche de l'université qui se demandent quand même ce qu'on fout, quoi. Pourquoi on n'est pas avec eux pour penser la question des réfugiés? Pourquoi on n'est pas avec eux pour penser certaines politiques publiques? Pourquoi on n'est pas avec eux pour penser... encore rencontré hier dans une réunion organisée par Pascal Nicolas Eustrat dans le cadre d'Experis et d'un nouvel axe de recherche du laboratoire qui s'appelle Territoire en expérience. On a rencontré plein de gens, mais absolument incroyables, et qui ont besoin de nous, quoi. Et on n'est pas là. On n'est pas là.
Enfin, je partage complètement ça. Il y a plein de façons de répondre à ce que disait Christophe. Bon. Déjà, il y a le passé. C'est-à-dire qu'il y a... Moi, ce que j'ai... Enfin, je suis un grand fanatique. Plusieurs personnes le savent ici, ou plein de personnes qui est Gabriel, qui va ouvrir les yeux sur plein de trucs. Ce que dit Paul Lansky et Gabriel sur la récupération de la critique artiste par le néo-management des années 90, c'est très convaincant, c'est une réalité. Donc c'est, oui, il y a eu un moment où le management, la publicité, le marketing, les formes les plus marchandisées de la communication sont allées chercher une certaine recherche critique. C'était l'époque, alors, là aussi, c'est... Moi, j'avoue que ça m'a beaucoup embué de voir, dans les années 90, la publicité se convertir à la critique sociale. Du genre, j'ai plus un slogan précis en tête, c'était casser les règles, acheter des Nike, des trucs comme ça. Enfin, il y a quand même eu un moment. C'est un truc que décrit Frédéric Bébé dans ses romans, où les publicitaires se sont appropriés hein, le lexique révolutionnaire et ont pondu à la chaîne du slogan où le consumérisme était complètement aligné avec la révolution. Ça c'est un peu désespérant. Hein. Et moi j'ai l'impression que. Dans l'histoire récente, il y a eu plusieurs moments clés comme ça. Donc, il y en a eu un, très clairement, avec l'acteur réseau, la révolution, casser les barrières, sous-entendu, remplacer les champs par les réseaux, l'individualisme que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire, soyons des créateurs... échappons à tout ce qui nous enferme, soyons créatifs. Donc ça, c'est ce que racontent Boltanski et Capello sur le moment, on va dire, fin des années 80, début des années 90. Il y a eu d'autres moments comme ça. Donc, dans les années 2000, il y a eu le moment participatif. C'est-à-dire, 10 ans plus tard, la participation, qui au départ était issue des travaux critiques est devenu le comble du trendy dans ce qu'il fallait faire dans les grandes entreprises, dans la création publicitaire, dans l'innovation. Et il a fallu attendre une dizaine d'années, certains travaux de recherche, pour comprendre que la participation, c'était une nouvelle forme de gouvernementalité au sens de Foucault, et que ça permettait en fait de renforcer des rapports de pouvoir et des rapports d'exploitation. Moi, j'ai la conviction que ce qui se passe en ce moment autour de la socio-économie, autour de la critique de l'économisme, reproduit ça. C'est-à-dire que il y a des travaux en socio-économie qui se présentent comme un sommet de radicalisme. Donc voilà, on va montrer que les marchés sont des constructions sociales. Et on va justifier ça politiquement en disant que c'est en faisant ça qu'on va armer les militants pour lutter contre les dérives de l'ultralibéralisme. Bizarrement.
Tu penses à quel travaux on va
Et bizarrement, quels sont les endroits qui se mettent à consommer et à enseigner cette nouvelle socio-économie? C'est les grandes business schools anglo-saxonnes. Bizarrement, un des grands sociologues des sciences, compère de Bruno Latour, qui est Steve Wigard, il a trouvé un poste à la Salle Business School, je ne sais plus dans quelle ville c'est, en Angleterre. Bizarrement, il y a des revues de management qui accueillent des numéros, il y en a un qui s'appelait STS, un business. Donc, cette espèce d'ambivalence ou de bivalence qui est que on fabrique des recherches en sciences sociales, au sens très large du terme, qui ont apparemment une dimension critique, et en fait, on les organise de façon telle qu'elles deviennent étonnamment appropriables, disons, par les forces du marché, c'est très très curieux, ça, ça pose question. Et moi, je regrette, en fait, que on ne tire pas les conséquences de ce que nous ont appris les deux premiers mois. On est actuellement dans le troisième moment et on laisse se reproduire ce qui s'est passé les deux premiers mois.
Du coup, comment tu le caractérises, ce troisième moment? Et est-ce qu'il y a une production scientifique critique particulière dont tu estimes qu'elle est qu'elle tombe sous le coup d'une utilisation
Alors, il y en a une qui est très minoritaire, qui est représentée par des gens comme Feuchtstein aux États-Unis, ou comme
qui est aux États-Unis aussi.
Non. Bon, ça me reviendra. Donc eux publient des articles en disant non. Dans la nouvelle socio-économie, il y a deux courants bien distincts. Il y a le vrai mouvement critique inspiré du marxisme et il y a les gens qui se prétendre radicaux, mais qui n'en sont pas. Mais ces gens-là ne sont pas tellement entendus. En fait, quand on fait l'effort de chercher leurs textes en publication, on voit ces constats-là, mais ils ne sont pas tellement entendus. Et dans les publications françaises, qui sont plutôt des manuels, des synthèses ou des handbooks, tout ça, ça disparaît. C'est-à-dire que la ligne de front, elle est complètement éludée.
Mais à cet égard, il me semble que la position que tu viens de nous présenter là, est-ce que la position que tu viens de nous présenter, en disant bah là, on est à le troisième moment, disons que c'est le troisième, mais tu viens de nous présenter comme le troisième, et on ne tient pas, les leçons des deux moments précédents, est-ce que cette position ne tendrait pas à manquer un peu de dialectique? Parce que la participation, certes, c'est dans un certain nombre de discours managériaux, etc., devenu ce que c'est devenu. Mais c'est quand même véritablement une valeur qu'on peut aussi défendre, tu vois, au sein de la critique. Tu vois, la participation, la gestion, ce truc-là, c'est aussi quand même des valeurs de la gauche.
Mais oui, c'est pour ça que c'est très compliqué. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, et c'est un peu désolant aussi, de se dire que la créativité individuelle, la liberté de faire ce qu'on veut, la volonté d'être un peu tous artistes, de s'exprimer, d'avoir le droit tous à la parole, voilà, que ça, c'est été détourné, que maintenant ce soit Facebook, c'est devenu une espèce d'injonction, qu'il faut tous qu'on soit sur Facebook, qu'il faut qu'on montre à quel point on est génial, et qu'on est créatif, que dans les entreprises maintenant, si t'es pas créatif, si tu crées pas du réseau, t'as pas atteint tes objectifs, voilà. Il y a eu de tels détournements, c'est un peu désolant. Et donc je suis d'accord avec toi, c'est pas pour autant qu'il faut abandonner totalement ces idéaux que sont la créativité, etc. Donc oui, c'est compliqué.
Oui, en fait, dans ces cas-là, tu peux presque retenir. Je suis désolé, je me plais un peu la porte. Ça m'intéresse beaucoup parce que. Enfin, je ne ferai pas ma socio-analyse, mais ça me touche beaucoup par rapport à mon récit. Mais si tu veux, tu peux revenir. Je ne sais pas comment dire. Le premier esprit du capitalisme, tu vois, c'est-à-dire soit qui serait lié à l'éthique protestante, soit, ou même, disons, plutôt l'imaginaire de l'individu bourgeois, tu vois, l'imaginaire de la bourgeoisie, etc., qui tourne autour de la Révolution française, c'est aussi quelque chose qui permet, tu vois, de renverser un état préexistant, inadéquat, etc., le féodalisme, alors qu'après,
on se débarrasse de la problème,
tu vois, c'est-à-dire que. Ici aussi, je ne sais pas qui, d'ailleurs, on est obligé tous de se revendiquer du modèle bourgeois. Tu vois, on peut difficilement faire autrement, et pourtant on sait qu'il pose problème, désolé. Et pourtant on sait qu'il pose problème, etc. Tu vois, donc c'est vraiment.
C'est pour ça qu'on ne peut que aboutir à un argument de complexité, ce que je disais tout au début. On est obligé de se fader de la lecture des textes, de la réflexion intellectuelle, de comprendre que toutes ces catégories, tous ces outils, toutes ces intentions sont très complexes, qu'elles vont dans des directions totalement contradictoires, et qu'il ne faut ni verser dans l'angélisme, ni dans le catastrophisme. Il faut être vigilant, informé, et pas pour autant baisser les bras.
Et peut-être au niveau plus micro, pour revenir à la question de la perte sociale, il faut. Tu vois, les méthodes qu'on a, mais que je suis sûr beaucoup de scientifiques ont, de s'envoyer les textes entre nous, des fois de parler avec les étudiants, tu vois, il me semble que c'est de manière à ce qu'on se laisse pas avoir par nous-mêmes, tu vois, ça peut nous arriver, des fois on écrit des trucs, puis il faut que ce soit un collègue qui dise bon, tu as bien dit non, tu te rends Christophe. Lâché. Tu vois, en gros, c'est ça, quoi. La leçon qu'il faut en tirer, c'est au niveau micro, tu vois, comme peut-être que les revues ne sont pas toujours tu vois, très aptes à t'expliquer que, voilà, faut qu'on ait cette honnêteté, tu vois. La conclusion que je tire de tout ce que tu as dit, c'est ça. Il faut qu'on ait entre nous cette exigence, tu vois, de pas se laisser avoir par nous-mêmes. Mais ça paraît un peu, c'est presque un peu décevant.
Le problème du peer review, c'est qu'il oscille entre une vigilance épistémologique qui est portée par un entre-soi. Et donc on voit bien, ces canulars montrent bien que là, en l'occurrence, ça passe dans les revues, parce que c'est censé, ça ressemble quand même beaucoup à ce qui s'y dit et ce qu'on défend. Donc il y a une espèce de reconnaissance, pas au sens d'honnête du terme, mais de reconnaissance des signes extérieurs qui permettent de qualifier le travail comme appartenant à, et donc comme allant dans le sens de. Et dans ce cas-là, on voit bien que ça ne marche pas, quoi. La vigilance épistémologique qui s'exerce au travers de la lecture de ça ne convient pas. Et puis à l'autre bout du spectre, il y a un autre travers qui est l'exact inverse de ça, à savoir que se faire reviewer par quelqu'un qui n'est absolument pas de la partie ou qui défend absolument autre chose. Par exemple, présenter, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé, un papier entièrement fondé sur une enquête qualitative que j'estimais être solide, relu par un quantitativiste notoire connu pour ça, qui t'explique en gros, bon voilà, c'est pas solide, quoi, parce que t'as pas une enquête derrière. Voilà, en même temps, tu dis, bon, bah ok, quoi. Mais, alors lui aussi défend en quelque sorte sa. Dans un cas, on défend sa cuisine et sa popote pour embarquer la personne avec soi, et dans l'autre, on défend sa popote pour l'exclure de. Voilà, et que la vigilance épistémologique, elle doit évidemment s'exercer ni dans un de ces aspects-là, ni dans l'autre. Enfin, pas à ces deux pôles-là. Or, les conditions sociales présentes de production de la science nous invitent. À aller dans un. Enfin, en fait, c'est les deux faces d'une même pièce, à aller sur ces modalités pratiques d'évaluation de. Voilà. Le publish or perish, enfin, les deux, trois trucs que j'ai dit en intro sur. Et donc, il faut revenir aux conditions pratiques d'exercice de production de la science, quoi. Et actuellement, elles sont quand même étonnamment peu propices à l'exercice, je trouve, d'une forme de vigilance épistémologique minimale.
D'où l'intérêt de créer les siennes.
De créer ?
Les siennes.
Les siennes.
Donc, si le projet que vous avez en commun, le relève, c'est ça, tout est
pas. Ok, on s'arrête là.